RFI, 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Édouard Dupénoit, de lourdes affaires judiciaires dans votre journal, mais d'abord un hommage.
Oui, vous venez de les entendre parler l'un de l'autre, de la musique, de leur cécité, de leur succès et de ses embûches. Parlons de lui d'abord dans cette édition. Amadou Bagayoko est décédé hier à 70 ans, une vie entière consacrée à la musique. L'actualité judiciaire en effet ce matin sur le continent africain, celle dite de l'avion présidentiel au Mali, l'ancienne ministre Boiré Félicie Sokho reste en détention. L'attentat de Lockerbie et du DC-10 d'UTA, un lanceur d'alerte libyen dans le viseur de la justice. Et puis les bien mal acquis, volet Congo-Brazzaville, l'enquête a pris 15 ans mais elle est terminée. Nous sommes aussi à Port-Louis dans quelques minutes, manifestation à l'appel notamment d'associations de ressortissants de l'archipel des Chagos pour que l'océan Indien ne devienne pas une zone de conflit direct ou indirect. Direct entre l'Iran et les États-Unis. Et c'est donc un Mali endeuillé qui ouvre ce journal. Celui qui vient de perdre Amadou Bagayoko, la moitié d'un duo connu dans le monde entier, celui qu'il formait avec son épouse Mariam. Il est mort hier à 70 ans dans une clinique de la capitale malienne. Ça fait certes 20 ans que le monde entier danse sur les beaux dimanches à Bamako, ce jour de mariage, mais Amadou Bagayoko, c'était toute une vie de musique qu'Alexandra Branjon reprend pour nous.
Amadou Bagayoko est né à Bamako le 24 octobre 1954. Très tôt, il montre des prédispositions pour la musique. Il apprend les percussions dès l'âge de 2 ans, l'harmonica, la flûte à 10 ans, puis coup de cœur pour la guitare. Adolescent, il joue déjà dans plusieurs orchestres quand il perd la vue à cause d'une maladie. À 20 ans, il entre à l'Institut des jeunes aveugles de Bamako. C'est là qu'il rencontre Mariam Doumbia, qui deviendra sa partenaire dans la vie et sur la scène. Lauréat du concours Découverte organisé par RFI en 82, le couple commence à se faire connaître dans tout le Mali, part vivre en Côte d'Ivoire et rencontre le producteur Maïkano. Enregistrement en France en 97 du premier CD Souni Tilé avec la chanson « Mon amour, ma chérie », la carrière d'Amadou et Mariam prend une dimension internationale. Début des années 2000, approché par Manu Chao, le couple sort l'album « Un dimanche à Bamako ». 2008, « Welcome to Mali », 2012, « Folila », 2017, « La confusion ». L'année dernière, Amadou s'était produit avec Mariam lors de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de Paris pour interpréter une version de la chanson de Serge Gainsbourg, Je suis venu te dire que je m'en vais.
C'est Sabali que vous entendez sur l'antenne de RFI et sur le site de RFI.fr. Vous lisez une biographie bien plus complète, bien sûr, d'Amadou Bagayoko, mort hier à 70 ans. L'actualité au Mali, proprement dite, c'est l'ancienne ministre Boiré Félicie Sokho qui reste donc derrière les barreaux, ancienne ministre de l'économie. Elle est poursuivie dans la tortueuse affaire dite de l'avion présidentiel et des contrats militaires surfacturés. Boiré Félicie Sokho est emprisonnée depuis la fin août 2021. Ses avocats demandaient une libération provisoire pour raison médicale. David Bachet refuse hier de la Cour suprême.
Accusé notamment de corruption en détention provisoire depuis plus de 3 ans et demi, au-delà du délai légal, Boiré Félicie Sokho réclame d'être jugée pour, selon elle, prouver son innocence. Âgée de près de 70 ans et souffrant de plusieurs pathologies, drépanocytose, problèmes cardiaques, hypertension, arthrose, l'état de santé de l'ex-ministre de l'économie s'est gravement dégradé ces derniers mois. Malgré une expertise médicale, la Cour suprême a rejeté sa nouvelle demande de libération sous contrôle judiciaire. En octobre dernier, après 3 semaines d'audience, le procès au cours duquel Boiré Félicie Sokho comparait aux côtés d'une dizaine d'autres prévenus a été suspendu pour permettre l'audition de nouveaux témoins à la demande des représentants de l'État. Les auditions ont eu lieu le mois dernier, mais aucune date n'a encore été fixée pour la reprise du procès. C'est dans le cadre de cette même procédure que l'ancien Premier ministre Soumaïlou Boubey Maïga était mort en détention il y a 3 ans. Les autorités maliennes de transition s'étaient opposé à son évacuation sanitaire en dépit des recommandations médicales.
David Baché, l'actualité dans le Sahel. Encore au moins 3 villages ont été pris pour cible avant-hier dans l'ouest du Burkina Faso, dans la province du Sourou particulièrement. Les hommes armés sont suspectés d'y avoir fait plusieurs dizaines, peut-être jusqu'à 200 morts. Les témoins et les rescapés racontent que les assaillants s'en sont pris spécifiquement aux VDP, ces civils supplétifs des forces armées. Ces massacres semblent aussi être des représailles à une opération militaire menée par l'armée burkinabé quelques jours plus tôt. Récit Amélie Tullet.
Selon ces témoignages, les hommes armés ont pris d'assaut les villages de Di, Guédougou et Landfiera dans la province du Sourou jeudi, en fin d'après-midi. Un rescapé du village de Guédougou raconte « Les terroristes ont investi le village, il y a eu beaucoup de morts. Le bilan pourrait avoisiner les 200 morts », ajoute-t-il. Toujours selon un rescapé, des dizaines de personnes ont été enlevées, pour la plupart des jeunes qui avaient rejoint les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Une station de pompage d'eau et les infrastructures de plusieurs villages ont également été détruites. Ces attaques ont eu lieu quelques jours après une vaste opération nommée Tourbillon, menée par les forces armées burkinabées dans la région et qui avait permis de repousser ces hommes armés jusqu'à la frontière malienne. Une opération qui aurait brisé, selon les villageois, un pacte de non-agression entre groupes armés et civils. Toujours, selon les villageois, les habitants auraient demandé aux soldats qu'ils restent dans la zone, craignant des représailles de la part de ce groupe armé.
Amélie Tullet, plus de 35 ans après 2 attentats, un lanceur d'alerte libyen se retrouve dans le viseur de la justice. C'est une affaire complexe que celle qui vise Samir Chegouara, le co-auteur d'un ouvrage qui a permis de lever une partie du voile sur les attentats de Lockerbie en Écosse à la fin 88, mais aussi sur l'attentat du DC-10 d'Utea au Niger en 89. Il est aujourd'hui accusé de possession illégale de documents classifiés, des documents qui impliquent directement l'ex-chef des services de renseignement libyen Abdallah Senoussi. Il a été libéré provisoirement, mais Christina Okello, il reste sous la menace d'un procès.
Le 20 mars, en plein après-midi, Samir Chegouara est interpellé dans son bureau à Tripoli. Accusé d'atteindre à la sûreté nationale, cet élu local est soupçonné de détenir des documents classifiés. Des archives pourtant déjà rendues publiques en 2018, mais qui ont retrouvé un écho explosif avec l'apparition du livre « L'assassin qu'il fallait sauver », accusant l'ancien régime libyen d'être derrière les attentats de Lockerbie et du vol DC-10 d'Utea. Pour Vincent Nuzzi, l'un des co-auteurs, cette arrestation n'a rien d'anodin.
Nous, on l'interprète comme un souhait de certains en Libye de faire pression sur lui, évidemment, pour le faire taire ou l'empêcher de pouvoir éventuellement continuer de dire ce qu'il a dit et de fournir des documents accusant le régime libyen de Kadhafi de ses attentats.
Parmi ces documents, des éléments qui pourraient servir de preuve à charge contre Abu Aguila Massoud, l'artificier présumé des attentats. Son procès doit s'ouvrir bientôt à Washington et Samir Chegouara devait y témoigner. Une perspective aujourd'hui mise à mal, estime Guillaume Denoir de Saint-Marc, qui a perdu son père dans l'attentat contre le DC-10 d'Utea.
Ça fait 37 ans que nous attendons le procès pénal et donc là, il y a une perspective de pouvoir avoir ce procès. Dans l'affaire du DC-10 d'Utea, il y a 170 morts, dont 99 Africains. Et c'est important qu'on puisse arriver au bout de cette histoire avec un procès contradictoire et que justice puisse enfin passer.
Une audience concernant Samir Chegouara est attendue cette semaine à Tripoli.
Et c'est un autre serpent judiciaire et encore le mot est faible. L'affaire dite des biens mal acquis. 15 ans après l'ouverture de l'affaire, le juge d'instruction a terminé ses investigations. La suite est entre les mains du PNF, Parquet National Financier en France donc. Sur les 11 personnes mises en cause dans cette enquête, le parquet doit dire qui il souhaite voir juger et pour quel chef d'accusation. On parle là du volet Congo-Brazzaville de cette enquête bien mal acquis. William Bourdon est avocat pour Transparency International France, partie civile dans ce dossier. Il est convaincu qu'il y aura bel et bien un procès.
C'est une saga judiciaire tout à fait exceptionnelle parce qu'il y a 15 ans qui aurait misé sur le fait qu'après la première plainte déposée par Sherpa, ça aboutisse après de longues investigations, mais finalement à la hauteur de la complexité, de la gravité du fait, pas si long que ça. D'abord un premier procès, hein, où Théodore Obiang, le rejeton du despote qui gouverne la Guinée équatoriale depuis des années, a été définitivement condamné. C'était le premier chapitre, maintenant il y a le deuxième chapitre. Et il n'y a pas de doute sur le fait que le parquet de Paris va rendre des réquisitions de renvoi devant le tribunal correctionnel de la ribambelle enfant et autres du clan Bongo, des bénéficiaires de ces flux illicites et de ceux qui les ont facilités. Donc il y a un versant français et un versant gabonais. aucun doute, il y aura un procès et le dossier est tellement solide que je vois mal comment tout ce clan et tous ceux qui ont appauvri le pays pendant des décennies et décennies, et les facilitateurs français, je vois mal, compte tenu de la solidité des charges, qu'ils puissent échapper à une condamnation.
William Bourdon, avocat de Transparency International France. L'île Maurice craint enfin de se retrouver bien malgré elle sur les sentiers de la guerre. Manifestation hier à Port-Louis à l'appel d'une vingtaine d'organisations civiles et notamment celle des habitants de l'archipel des Chagos. Ce petit chapelet de terre sur lequel Maurice pourrait recouvrer sa souveraineté, à l'exception notable de la base de Diego Garcia. Poste avancé des États-Unis, poste devenu ultra stratégique parce que les Américains s'en servent comme base arrière pour leurs opérations en mer Rouge, notamment contre les Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran. Reportage RFI Abdoulaye Rali.
Fermez la base de Diego Garcia, rendez-nous les Chagos. Ces slogans ont résonné à Port-Louis lors d'une marche qui a regroupé 21 organisations mauriciennes. Les manifestants craignent un conflit régional si une guerre éclate entre les États-Unis et l'Iran. Henri Marimoutou, membre du mouvement contre la guerre.
Lors de la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas eu de grande bataille dans l'océan Indien. Mais maintenant, la guerre est à nos portes. La guerre est menée à partir de notre territoire des Chagos, de notre territoire de Diego Garcia.
Marche militaire !
Alain Avi, un des organisateurs de la marche, observe que la base de Diego Garcia se prépare à des opérations militaires.
Il y a un bombardier B2 et tout un armada militaire qui peut positionner les autres au Diego. Et d'après mon observateur, clairement, ils peuvent viser pour amener une attaque l'eau et Moyen-Orient.
L'idée d'un océan Indien pacifique et démilitarisé a mobilisé des jeunes mauriciennes.
Moi, c'est Shama, j'ai 28 ans et on est là aujourd'hui parce qu'on ne veut pas de base militaire dans l'océan Indien. L'océan Indien est une zone de paix.
Alors, moi, c'est Shim, j'ai 31 ans. On ne veut pas de guerre dans nos eaux, on ne veut pas qu'il y ait du sang sur nos mains également.
Cette manifestation intervient alors que Londres a suggéré cette semaine que Donald Trump a approuvé la rétrocession des Chagos à Maurice, à l'exception de la base de Diego Garcia. Abdullah Erali, Port-Louis, RFI.
À Port-Louis, il est 11h42.
Merci Edouard Dupénoit.